Jean-Mathieu, c'est un symbole, la chaîne de l'Himalaya. Le Premier ministre a choisi le plus haut sommet du monde pour représenter le mur de la dette et l'ascension à laquelle chaque Français doit se préparer pour réduire le déficit de 43,8 milliards d'euros rien qu'en 2026. Et pour le gravir, cet Himalaya, eh bien François Bayrou a prévu tout un tas de mesures, des mesures qui visent principalement le travail, suppression de 2 jours fériés, monétisation de la 5e semaine de congés payés, durcissement de l'assurance chômage, augmentation des jours de carence, gel des salaires dans la fonction publique. Bref, le Premier ministre veut mettre plus de Français au boulot. Bertrand Martineau, c'est la dure vérité, comme il l'annonce hein, dans l'intitulé même de son allocution, le moment de vérité. La France doit se mettre au travail ou ce sont les actifs qui trinquent injustement dans ce plan budgétaire?
Alors, déjà sur le diagnostic, je pense que tout le monde est à peu près d'accord, même ceux qui sont totalement opposés au ce que vous appelez le plan Bayrou. Pour reprendre la métaphore de l'Himalaya, avec ce qui est annoncé là, on va dire qu'on commence à quitter le camp de base, simplement, hein, mais que le pire est évidemment devant nous. Ce qui est en train de se passer est évidemment prévisible depuis très très longtemps. On est dans une situation où on a une faiblesse des gains de productivité et on a un vieillissement démographique, qui est même pire que ce qu'on avait imaginé, mais en même temps, on le savait déjà depuis les années 80 qu'on avait un problème de vieillissement démographique. Et on ne s'y est pas préparé, ni à la baisse de productivité, ni à cette démographie. Ça veut dire qu'on a un modèle social, globalement, qui est calé pour une croissance économique de entre 2 et 3% par an. Or, d'après, même en étant assez optimiste, on va avoir du mal, dans les prochaines décennies, à dépasser 1% par an, en moyenne. Bon. Donc, effectivement, il va y avoir des choix politiques très lourds à faire. Donc, dans un premier temps, effectivement, comme il n'y a pas une majorité pour faire quoi que ce soit, en fait, on ralentit le rythme des dépenses. Je rappelle que tendanciellement, les dépenses publiques augmenteraient d'à peu près de 50-60 milliards et on va finalement, elles ne vont augmenter que de 30 milliards. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est juste en train de sortir du camp de base. On n'a pas commencé vraiment l'ascension.
On sait que c'est une année noire pour les salariés et c'est ce qu'on refuse à la CGT, mais aussi dans l'ensemble des organisations syndicales de ce pays qui ont lancé, comme vous l'avez rappelé au début, une pétition qui a rassemblé plus de 200 000 signatures en 2 jours. Et j'invite évidemment toutes celles et ceux qui nous regardent à la signer pour envoyer un message très fort au gouvernement sur le fait qu'on refuse de faire ce niveau de sacrifice-là pour ce budget. Aujourd'hui, le budget, ce qui vient d'être dit, ne me convient pas parce qu'on nous dit les dépenses ne vont pas augmenter, sauf qu'elles continuent d'augmenter en fait pour les entreprises et notamment pour tout ce qui concerne les aides publiques aux entreprises qui représentent là un rapport sénatorial vient de nous le rappeler et de confirmer hein, le chiffre qu'avait publié la CGT en 2022 qui représente plus de 200 milliards d'euros par an de dépenses publiques pour les entreprises sans contrôle ni contrepartie. Ces aides continuent de filer, tout comme il n'y a aucun geste qui est fait sur les questions de patrimoine, de grand patrimoine. Aujourd'hui, on ne va pas imposer plus ceux qui possèdent beaucoup, notamment les rentiers, et rien évidemment sur la rémunération du capital qui atteint des records en France, on l'a vu cette année en 2020.
Les Français, au lendemain des annonces de François Bayrou, on a 77% des Français qui désapprouvent la suppression des 2 jours fériés. C'est pas une surprise puisque c'est une mesure qui demande aux Français et surtout aux actifs de travailler plus sans contrepartie. C'est même pas un travailler plus pour gagner plus comme à l'ère de Nicolas Sarkozy. C'est une demande sans contrepartie. Et ce score de 77%, il monte à 83% chez les actifs puisque de toute façon, c'est un score de désapprobation puisque évidemment, c'est eux qui sont les premiers concernés.
D'accord, oui.
Environ 15 jours d'arrêt maladie par an et par salarié en Allemagne. Ce sont les chiffres de 2023 avec un Land particulièrement touché, la Thuringe dans le centre-est. 28 jours d'arrêt par an et par salarié. En fait, c'est depuis le Covid que les Allemands posent de plus en plus d'arrêts maladie. Pourquoi? Alors, certains disent que c'est lié à la procédure qui est simplifiée. Désormais, tout se passe électroniquement en Allemagne. Un clic sur Internet et l'arrêt est envoyé. Les syndicats disent que les arrêts augmentent surtout en raison de la détérioration des conditions de travail. En tout cas, ça pose un réel problème pour les entreprises allemandes parce que ce sont elles qui paient les congés maladie et non pas la sécurité sociale comme en France. Alors, et quelle solution? Vous allez voir que les idées fleurissent chez nos voisins allemands. Par exemple, réintroduire un jour de carence, c'est ce qu'a proposé le patron de la banque Allianz. La Chambre fédérale des médecins a, elle, pensé à un congé maladie à temps partiel. Ça veut dire, en gros, si vous êtes malade, mais pas trop malade, vous pouvez travailler quelques heures de chez vous en télétravail. Le débat, en tout cas, est toujours en cours en Allemagne. Et pendant ce temps, certaines entreprises utilisent la méthode, disons, forte. Tesla, par exemple, a lancé une prime pour les salariés bons élèves et l'entreprise menace de couper le salaire pour ceux qui sont les plus absents. Et puis d'autres sociétés s'offrent même des services de détectives privés pour traquer, et oui, ceux qui posent des arrêts maladie frauduleux. Bertrand Martineau, on voit que dans le secteur privé, quelle est, selon vous, la solution pour lutter contre ce problème ?
Alors, il y a plusieurs solutions. Il y a des mesures, disons, de type assurantiel. Alors, peut-être sans aller jusqu'à certaines extrémités là, de détectives privés, c'est normal qu'une assurance contrôle le risque. Donc, des jours de carence, des niveaux de remboursement. Dans le livre que j'ai fait avec Franck Morel, on propose, par exemple, de moins indemniser les petits jours de congé et de mieux indemniser les jours longs, qui, a priori, sont des maladies. Donc, en gros, mieux indemniser le gros risque, pour dire les choses, et moins le petit risque. On peut imaginer donc des techniques assurantielles qui permettent de maîtriser mieux le risque. Parce que, et il y a effectivement de l'abus en même temps, bien entendu, l'immense majorité des gens ne sont pas fraudeurs, mais il y a quand même des techniques assurantielles à mettre en place. Mais plus profondément, et ça concerne tous les pays occidentaux, on a effectivement un problème de rapport au travail et de nouvelles pathologies créées par le travail, qui sont moins des pathologies de pénibilité physique aujourd'hui que des pathologies psychiques. Sur fond de population, il faut quand même le dire, on a un problème de santé mentale dans nos pays, alors en particulier en France, et en particulier chez les jeunes. Donc l'entreprise et le travail n'est pas responsable de tout, ça vient se grever. Voilà. Donc oui, il y a des pathologies du travail qui sont mal prises en compte par les entreprises, parfois même mal prises en compte par le dialogue social, effectivement. Il y a énormément de progrès à faire, c'est évident.
Le principe même de notre sécurité sociale, c'est de garantir notre niveau de vie. C'est-à-dire, je tombe malade, je suis arrêté par une décision d'un professionnel ou d'une professionnelle de santé, et à ce titre-là, j'ai le droit au maintien d'une rémunération qui me permet de rester dans mon appartement, ne pas avoir à vendre ma voiture ou à arrêter mes activités quotidiennes. Donc c'est très important de maintenir le niveau d'indemnisation, et c'est un grave problème que le gouvernement appelle à geler de manière générale les prestations sociales. C'est très très grave, hein, les annonces qu'il a faites là. François Bayrou.
Le gouvernement nous dit qu'il ne peut pas tenir.
Au fait de créer de nouvelles recettes, de trouver de nouvelles recettes. On a généré des manques à gagner pour la sécurité sociale à travers les années, notamment par le biais de ce qu'on appelle les exonérations de cotisations sociales qui font partie de ces fameuses aides publiques. Ces aides publiques, les 200 milliards, c'est 6 600 euros par seconde qui sont versés aux entreprises aujourd'hui sans contrôle ni contrepartie. Sur les questions, on parlait de la question de la santé au travail, les pathologies.
On va parler dans un instant. Je vous propose, on va juste revenir dans un instant, juste avant.
Flora Bonnelin, une question sur ce qui nous attend dans les prochains mois. Les propositions
Cristal, cependant, on voit clairement qu'il y a un schisme entre les Français, leur perception du travail aujourd'hui et la démarche du gouvernement. Les annonces de François Bayrou aujourd'hui, elles s'inscrivent aussi dans la droite ligne de toute la réforme sur les retraites, la volonté de faire travailler plus longtemps les Français, de les faire travailler plus aussi à l'année, au moment même où les Français, eux, sont en train de souhaiter revaloriser finalement leur temps libre et de lui donner une plus juste place et de, comment dire, décentraliser le travail dans leur vie.
C'est étonnant ce que vous dites parce que
c'est dans un contexte de diminution, enfin de modération du pouvoir d'achat, des salaires qui croissent beaucoup moins vite pour les raisons que j'ai évoquées, c'est-à-dire c'est l'économie générale qui ralentit, donc les salaires aussi, comme l'ensemble de l'économie. Et donc, vous avez, et d'où le succès du slogan de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est que ça correspond à une appétence populaire très très profonde. C'est-à-dire, il suffit d'aller dans les entreprises, les salariés ont envie de faire des heures supplémentaires, majoritairement. Bon, et donc... Donc cette question de travailler plus pour gagner plus est en toile de fond depuis longtemps pour cette raison. Et puis il y a maintenant, on vient se greffer une raison nouvelle, mais qui n'est pas incompatible avec la première, c'est qu'on a aussi un problème de finances publiques gravissime. Voilà, donc c'est la conjonction des deux qui fait que la question de la quantité de travail dans l'économie, qu'on la prenne par les deux bouts, c'est-à-dire par le nombre de gens qui travaillent et par la durée du travail des gens qui travaillent, qui devient un problème politique central.
Prétend des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire que les salariés ne travailleraient pas assez. Les gens travaillent énormément. On a deux problèmes dans notre pays. Des gens qui travaillent bien au-delà des 35 heures. C'est notamment le cas des cadres et des professions intermédiaires à cause de mesures qui ont été portées par le patronat, puisque l'augmentation du temps de travail, c'est quand même une obsession patronale. Ouais. C'est pour ça que ça revient régulièrement. C'est parce que le MEDEF régulièrement dit les Français ne travaillent pas assez. C'est le forfait jour, le fait qu'on ne décompte plus les heures de travail pour les cadres, c'est très grave. Il y a un cadre sur deux aujourd'hui qui est au forfait jour et qui travaille en moyenne 45 heures par semaine. C'est 10 heures au-dessus des 35 heures hebdomadaires. Et le deuxième problème qu'on a dans notre pays, qui explique les chiffres qu'on comprend en France, c'est qu'on a un temps partiel imposé, notamment chez les populations employées, en particulier chez les femmes, qui subissent des temps partiels, des contrats très précaires avec des temps fragmentés qui ne leur permettent pas de vivre, qui expliquent aussi la pauvreté des salariés, des catégories employées, notamment des femmes et des familles monoparentales. Et c'est un problème auquel le gouvernement refuse de s'attaquer, alors qu'à la fin de la conférence sociale en octobre 2023, il avait dit qu'il travaillerait sur les questions de temps partiel. Aujourd'hui, il refuse de le faire.
Alors, les salariés français, en fait, ils sont à 64% à nous dire qu'ils estiment exercer un métier pénible psychologiquement. 64%, ça veut dire quasiment deux salariés sur trois. C'est plus que la pénibilité physique, qui est là plutôt cantonnée à des métiers, par exemple, ouvriers. Oui. Et donc, cette question de la santé psychologique, en fait, elle touche justement toutes les catégories professionnelles, les catégories populaires, comme les cadres, comme les professions intermédiaires. Et c'est ça qui est marquant aussi, c'est que ça touche vraiment toute la population.
Jeunesse, comme je disais tout à l'heure, il y a des enquêtes maintenant épidémiologiques qui montrent qu'elle est plus touchée que les autres par des problèmes de santé psychique qui dépassent largement la question du travail.
Et probablement, pour vous, ce n'est pas forcément lié au travail ?
C'est en partie lié au travail, mais pas uniquement. Enfin, il y a une composante jeunesse particulière qui est en train, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, il y en a beaucoup qui évoquent les conséquences à long terme du Covid, des causes, des troubles psychologiques qui ont eu à ce moment-là, mais ça se traduit aussi par les consultations psychiatriques, par les internements dans les hôpitaux psychiatriques, etc. Enfin, c'est un sujet qui dépasse largement la question du travail. On a affaire à des jeunes qui sont plus fragiles psychologiquement probablement que leurs aînés. Bon, cela étant, que ce soit des jeunes ou des pas jeunes, une proportion importante de travailleurs français est exposée, non pas à une durée du travail excessif, parce qu'on n'est plus dans la civilisation de l'usine, mais sont exposés à des changements organisationnels qui sont incompris, qui sont parfois absurdes et qui viennent perturber justement la santé psychique. Ils sont confrontés à un management toxique, et vous savez, quand vous avez un management toxique, il vaut mieux travailler 40 heures et se sentir bien dans un environnement, une organisation du travail très adaptée, que travailler 30 heures ou 32 heures avec un management toxique. Quand vous allez au travail avec la boule au ventre, même si vous travaillez peu, de toute façon, vous aurez des problèmes psychiques. Donc ces phénomènes qui sont vraiment psychiques et non pas liés à l'usure physique, l'usure professionnelle, renvoient à des questions d'organisation du travail et sont assez peu liés à la durée du travail, en fait.
Alors, les facteurs de risque socio-organisationnel, c'est l'intensité de la charge de travail.
Pas la durée,
c'est notamment les horaires à rallonge. Travailler 40 heures par semaine, c'est un danger pour la santé. C'est la raison pour laquelle il faut réduire le temps de travail. Et les jeunes l'ont parfaitement compris. Nous, on a interrogé justement à la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens, les salariés sur leur souhait de réduire le temps de travail. Et les jeunes sont souhaitent plus que les autres générations voir réduire leur temps de travail. Et pourquoi ? Mais parce que pour beaucoup, ils ont vu les générations d'avant, et notamment la génération de leurs parents, travailler trop au travail, faire des heures sup, travailler le week-end, ne jamais déconnecter. Et j'ai entendu, moi, dans des organisations CGT, des personnes me dire, les seules personnes qui se souviendront que vous avez fait des heures supplémentaires sont vos enfants.
Ouais. Alors juste encore, je suis désolée. En revanche, ce qu'on avait testé, c'était la semaine de 4 jours.
Oui.
Voilà. Et pour le coup, les Français et les actifs, a fortiori, sont très majoritairement en phase pour que ce soit la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours.
Justement, Agathe Berdier, rapidement, pour ou trois, sur la sieste, est-ce que ça peut être aujourd'hui, on sait qu'il y a des pays en Chine aujourd'hui, où c'est carrément dans la constitution, ça serait important, ça serait intéressant de mettre ça en place.
Moi, je veux juste réagir, je trouve indécent que le ministre de la Santé vienne parler de sieste, alors que Bayrou a annoncé la suppression de 3000 postes de fonctionnaires qui vont aussi toucher les hôpitaux, qui sont dans une situation gravissime où les internes font des heures sup à rallonge, tombent malades, où les soignants, les infirmières sont obligés de faire des journées de 12 heures pour que les services tournent. Enfin, on est dans une situation catastrophique dans les services de santé publique et le ministre vient nous parler de sieste. Je trouve ça indécent. Par contre, effectivement, il faut ouvrir le débat sur la question de la réduction du temps de travail avec la semaine de 4 jours et non pas
la position de la CGT,
en 4 jours.
De 4 jours en 4 jours.
C'est la proposition de Gabriel Attal l'année dernière.
Il y a quand même un sujet. Plus généralement, au-delà de la sieste, c'est des problèmes d'organisation du travail. On pourrait parler de la sieste qui, j'espère, ne deviendrait pas obligatoire avec des incitations, enfin, pas qu'on soit des usines à gaz. Mais plus généralement, l'organisation du travail, les questions de déconnexion, qu'il faudrait bien faire respecter, effectivement. Il y a des conventions collectives, mais à rallonge, mais elles ne sont pas toujours respectées. Voilà. Et donc, au-delà de la question de la sieste, qui, d'un point de vue médical, est sans doute très intelligente, il y a la question de l'organisation du travail, de la répartition des temps de travail dans la journée et de l'intensité du travail,
c'est noté.
Plutôt que la question de la durée.
Merci.